Nous sommes...
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors, il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous.
Professeur émérite à la Sorbonne, chevalier de la Légion d'honneur, ses détracteurs parlent de lui comme un sociologue médiatique et ponte universitaire. Michel Maffezoli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau sur TV Liberté, que vous connaissez bien, et vous publiez « L'ère des soulèvements », un ouvrage que l'on retrouve sur la boutique officielle de TV Liberté. Vous en avez pris l'habitude, vous l'achetez sur le site tvliberté.com, rubrique boutique. Observateur attentif des temps postmodernes, vous aviez annoncé, ici d'ailleurs, à juste titre, l'effondrement social du pays, le retour des tribus. Et là, vous annoncez l'ère des révoltes, des soulèvements. De quoi s'agit-il concrètement ?
Oh, tout simplement le fait qu'à un certain moment, il y a une certaine lassitude pour ce qui nous concerne par rapport à, je dirais, cette mise à distance des autres, hein, c'est-à-dire la tyrannie sanitaire à bien des égards. Et je pense que de plus en plus, il y a une apparente soumission. Mais en même temps, je pense que grouille à l'intérieur quelque chose qui fait qu'on ne se satisfait plus véritablement à la fois de ces formes d'imposition, mais pour moi d'une manière beaucoup plus profonde, quelque chose qui fait que, alors employons ce mot qui fait peur, le peuple ne se reconnaît plus dans une élite en déshérence. Voilà. Et que régulièrement, quand quelque chose de cet ordre arrive, eh ben voilà, il y a soulèvement, insurrection, révolte, peu importe les termes. Hein. Je pourrais même dire révolution. Si on utilisait ce mot révolution dans le sens étymologique du terme, revolver, hein, c'est-à-dire ce qui fait revenir ce que dans notre progressisme benêt, on avait cru dépasser, la tradition, l'ordre naturel des choses, etc. Moi, je pense qu'il y a voilà, une certaine lassitude, pour le dire un peu simplement, vis-à-vis de ce qui est imposé, hein, que le pouvoir impose. Si j'ai encore 30 secondes, vous voyez, je fais cette opposition, c'était mon opposition dans les années 70, dans ma thèse d'État avec mon maître Gilbert Durand, je rappelais que dans toute société, il y a le pouvoir institué et la puissance instituante, la puissance populaire. À certains égards, le rapport entre le pouvoir et la puissance, ça peut marcher. Ça donne, disons, l'ordre normal d'une société équilibrée. Il est des moments, et mon hypothèse, c'est que ce moment est arrivé, où il y a un désaccord entre ce pouvoir institué et la puissance instituante. Voilà, d'où ce qu'on appelle soulèvement.
Désaccord, ou est-ce que ce n'est pas tout simplement une réponse précise, ponctuelle ? À un moment donné, à un instant T, si vous voulez, face à un pouvoir qui est de plus en plus abstrait, vous avez raison, oui. Qui s'avère incompétent, notamment dans ces domaines les régaliens. Est-ce que ce n'est pas un prurite ?
Oui, c'est-à-dire que Voilà, je vais revenir quand même sur un de mes dadas théoriques, hein, c'est-à-dire que au-delà de notre linéarisme, qui est un peu notre cerveau reptilien, c'est la philosophie de l'histoire émise par Hegel, systématisée par Marx, hein, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue, c'est le mythe du progrès qui s'est élaboré au XIXe siècle et qui continue à bien des égards à, je dirais, être le, un peu la marque de fabrique et en quelque sorte ce que vendent les élites au pouvoir. Donc il y a au-delà de ça, moi je pense qu'il y a des époques. Hein. Je rappelle l'étymologie, c'est une parenthèse époque. Et qui est en train de se fermer l'époque moderne, ce qui commence avec le XVIIe siècle, qui s'achève à la moitié du XXe siècle, et émerge une autre époque que, faute de mieux, je suis de ceux-là, je dis bien faute de mieux, on appelle post-modernité, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a une autre manière d'être, d'autres valeurs qui sont en gestation. Et entre ces époques, il y a toujours une période intermédiaire, hein, de quelques décennies, où justement on se rend compte que l'on est en train de quitter les grandes valeurs modernes, on ne sait pas encore bien exactement ce qui est en gestation, les jeunes générations en sont les porteurs, il faut bien le dire. Et donc voilà, c'est à ces moments-là qu'il y a ce décalage entre l'élite et le peuple.
– Mais cette période-là, vous dites que c'est une période crépusculaire.
– Oui, je l'appelle crépusculaire parce que… –
Qui n'apportera rien de bon.
– Voilà. Moi, c'est pas mon sentiment, si vous voulez. Hein. J'aime bien mettre en perspective, quand on regarde sur 2000 ans de temps, chaque fois qu'il y a eu une décadence, il y a eu une renaissance. En reprenant certains éléments que l'on avait cru dépasser, ce que j'appelle, moi, la spirale. Alors, vous avez rappelé que j'avais écrit en son temps ce livre, Le temps des tribus, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui met l'accent sur l'importance de l'idéal communautaire. Non plus simplement la verticalité d'un pouvoir abstrait, jacobin, colbertiste, enfin, tout qui a été une spécificité française, il faut bien le dire, mais où au contraire, on va être attaché à un lieu, ce que j'appelle le lieu félien. Moi, dans ma région, en Suisse-Cévennes, quand on parle du Loup-Païs, on dit en patois, c'est les cantons, hein, c'est les trois villages autour.
Enfin,
la petite patrie, hein, c'est-à-dire la nation, dans le sens étymologique du terme, nachère, hein, là où je suis né, avec d'autres, voyez, quelque chose de cet ordre. Alors voilà, moi, mon hypothèse, c'est que c'est ça le décalage. Hein. Je pense que cette élite au pouvoir, gauche et droite confondues, de ce point de vue, hein, soyons clairs, hein, je veux dire, qui reste ce que j'appelle, moi, dans une espèce de marxisation des esprits, reste sur le trépied moderne, individualisme, rationalisme, progressisme. Demain, on rasera gratis, les lendemains qui chantent. Et il reste sur ces schémas, c'est intéressant de voir comment les hommes politiques, les experts, les journalistes continuent à parler de laïcité, de progressisme, de la raison, le rationalisme. Voilà. On reste sur ces valeurs. Alors qu'il me paraît que, je dirais, au niveau de la sagesse populaire, c'est le « nous » qui va prévaloir. C'est l'importance de l'émotionnel qui est en jeu. C'est quelque chose qui met l'accent sur le retour à certains éléments de la tradition. Vous voyez, voilà. Alors c'est pour ça que je dis crépusculaire pendant un moment, mais personnellement, je ne pense pas que la fin d'un monde soit la fin du monde.
On y reviendra. Donc une période transitoire.
Voilà, transitoire.
Transitoire. Bref, voilà. Et dans cette période transitoire, et pour expliquer qu'on puisse visualiser finalement votre propos, vous avez pris la crise des Gilets jaunes. Vous dites que voilà, c'est vraiment cette confrontation des deux sociétés que vous évoquiez, c'est-à-dire la société officieuse, la société officielle, qui a failli.
Qui n'est plus en phase, tout simplement. Hein. Le mot, vous l'avez employé, qui est, dans le sens simple du terme, abstraite. C'est-à-dire, et ça commence à se dire, ça, si vous voulez, hein, quand on écoute les débats, même quand on entend les conversations, moi je vois dans ma région, ils ne connaissent pas la réalité. Ils ne savent pas ce qu'est, par quoi, comment on mange, comment on conduit, qu'est-ce qu'il faut, etc. Je rappelle que les gilets jaunes, c'était parti à l'origine parce qu'on avait augmenté, je ne sais plus combien, l'essence, par exemple. Voilà. Alors c'est vrai que des gens qui ont une voiture de fonction, un chauffeur qui ne paye pas l'essence, ne comprennent pas qu'on puisse, en quelque sorte, se révolter, là, en la matière, pour un prétexte peut-être anodin, mais qui fait que, vous voyez, à un moment donné, il y a une saturation. Pour moi, c'est mon hypothèse. Il y a une saturation, c'est-à-dire que ça, le propre de la saturation, c'est un sociologue américain qui montre, Sorokin, il dit le verre d'eau, je le sale ou je le sucre. Jusqu'au dernier grain, je ne vois pas qu'il y a saturation, et puis tout d'un coup, c'est saturé. Voilà, c'est un peu mon hypothèse, c'est-à-dire que ce mécanisme d'abstraction qui arrive régulièrement, hein, très souvent les élites se déconnectent. Et Vilfredo Pareto, un sociologue, un économiste pas négligeable, dit à ce moment-là, il y a une circulation des élites. Hein, c'est-à-dire, voilà, pour moi, à mon avis, c'est quelque chose de cet ordre qui est en jeu.
C'est sur la régularité, j'allais vous dire, et vous interpeller sur la notion que d'autres disaient avant-guerre, donc il y a 70 ans, plus de 70 ans de cela, l'opposition entre un pays réel et un pays légal,
oui,
on
oui.
est encore dans cette approche-là. Donc c'est une régularité, c'est un phénomène de réplique, c'est
régulièrement,
pas une innovation.
Voilà, mais moi, pour moi, je suis quelqu'un du midi, il n'y a rien de nouveau, qu'une novice sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Hein.
On voit revenir, pas exactement au même niveau, cette espèce de distorsion qui existe entre les élites et le peuple. Alors, c'est vrai que vous avez cité pays réel, pays illégal, on l'attribue à Maurras en a effectivement bellement parlé, Auguste Comte avant, enfin, il ne faut pas oublier la liaison qu'il y avait entre Auguste Comte et Maurras, et puis Royer-Collard, hein, puisque c'est lui qui, le premier, en 1845, va faire cette opposition qui régulièrement revient, voilà, c'est tout. Quoi. Et pour moi, c'est un des éléments de cet ordre qui est en jeu de nos jours.
– Néanmoins, aujourd'hui, vous dites que ça correspond à une période de transition.
– C'est toujours… Vous voyez, je redis cette période, soyons clairs, des périodes, ça dure 3-4 siècles. Hein, ça commence avec le cartésianisme, pour moi, ça s'achève à la moitié du XXe siècle. Les périodes, c'est les époques, je me suis pas trompé, hein, les époques, ça dure 3-4 siècles. Les périodes, ça dure quelques décennies. Qu'est-ce que c'est qu'une période ? Hein, si je prends une image de l'astrophysique, c'est que les astrophysiciens nous expliquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Hein, le foyer s'en éteint, on continue à voir cette lumière. Pour moi, c'est un peu cela qui est en train de se passer, c'est-à-dire les lumières sont devenues clignotantes. La philosophie des lumières, c'est devenu clignotante. Et à bien des égards, on ne sait pas exactement ce qui va prendre la suite, ou plus exactement, d'une manière secrète, c'est vécu. Je maintiens mon dada, hein, les tribus, les communautés, ce que j'appelle l'idéal communautaire qui est en gestation. En effet, la proxémie, hein, le local. Regardez ce mot qui est employé à tire-larigot, ça me choque quand j'entends les politiques l'employer, les territoires. Les terroirs, oui, mais ça c'est maurassien, disons-le net, hein, c'est-à-dire le lieu où je suis lié avec d'autres. Et c'est amusant qu'ils ne peuvent pas faire économie de ce mot, même s'il reste sur la verticalité du pouvoir. Vous voyez, voilà. Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui va se dessiner, mais on a quand même des indices, index, hein, ça pointe, ça souligne que d'une certaine manière, on ne se reconnaît plus dans cette verticalité qui fut la grande verticalité jacobine française.
– Je parlais des gilets jaunes, vous évoquez la crise sanitaire, alors pas du tout comme médecin, mais comme sociologue, et vous dites que ben, finalement, si on a pu se garder du virus, par contre, il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'il est rentré dans nos têtes. Hein, vous dites ce qui nous conduit à parler d'une psychopandémie, ces termes que vous utilisez. Ça veut dire quoi concrètement, une psychopandémie ?
Tout simplement que quand il y a une élite en perdition, elle élabore toujours une stratégie de la peur. Je rappelle pour mémoire tout de même qu'au Moyen-Âge, par exemple, une cléricature sclérosée, c'est la peur de l'enfer. Qui assurait son pouvoir d'une certaine manière. Et de nos jours, c'est quelque chose de cet ordre. La cléricature républicaine utilise la peur d'une maladie. Encore une fois, moi j'en parle avec prudence, puisque je n'ai aucune compétence, mais qui ne paraît pas être une maladie avec une létalité très forte. Hein, ça se dit de plus en plus. Mais c'est une stratégie de la peur pour maintenir, encore une fois, alors là, c'est gestes barrières, ce que j'appelle un peu ironiquement le port de la muselière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va maintenir justement cet individualisme qui a été la marque de la modernité. Hein, je rappelle, hein, cogito ergo sum, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et en effet, c'est à partir de là, Michel Foucault l'a bien montré, que sont élaborées les institutions sociales au 19e. Les individus qui contractent avec d'autres, mais essentiellement dans leur forteresse. Et là, le port, par exemple, de la muselière, ben, c'est une manière de maintenir cette valeur individualiste et de ne pas reconnaître qu'il y a du « nous » en gestation.
– Est-ce que de là, Michel Maffezoli, bon, vous venez de citer Michel Foucault, sur TV Liberté, c'est pas rien, mais est-ce que vous dites « ma crise sanitaire », vous la dépassez très vite pour dire « on est dans une crise civilisationnelle, pardon, on a la visualisation d'une dégénérescence de la civilisation oui. ». Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Ah ben, c'est ponctuel. C'est mon propre… Enfin, je veux dire, moi, je vais où j'ai envie d'aller hein, quand j'essaie de faire mais une proposition.
Je respecte votre point de vue. Ce que je veux dire, c'est est-ce que comment on passe de cela à la dégénérescence du mythe progressiste?
Écoutez… Voilà. Ben, le mythe progressiste, tiens, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que le mythe progrès? Je vais pas dire, puis-je dire le mot en allemand d'Hegel, repris par Marx, Aufhebung, dépasser, dépassement. Le mythe progressiste, c'est cette vieille idée qu'on va dépasser toute chose. Le dysfonctionnement, la maladie, Et pourquoi pas la mort ? Le transhumanisme, qui est l'aboutissement d'une certaine manière de ce mythe progressiste, a cette espèce de grand fantasme. On va dépasser. Voilà. Et l'idée du progrès consiste essentiellement à faire ce dépassement pour arriver à la société parfaite, au lendemain qui chante, etc. etc., etc. Alors, c'est en ce sens que je dis, et du coup, on manie la stratégie de la peur. On va dépasser, etc. Alors que les sociétés équilibrées ont su homéopathiser la finitude. Non pas la nier, non pas la dénier, mais faire avec. Comment je la ritualise? Je dis homéopathiser, mais même les rites. Moi, je rappelle dans ce livre, dans la tradition catholique, Notre-Dame de la Bonne Mort, à Poitiers, où la Vierge de son doigt montre la terre et le Christ le ciel. C'est-à-dire, il y a un passage qui se fait par l'acceptation de la finitude dans un cadre beaucoup plus général. Voilà mon propos, vous voyez, c'est-à-dire que le progressisme, en quelque sorte, est ce fantasme qui a bien marqué la modernité, qui a permis le développement des sciences, le développement de la technologie, et qui actuellement aboutit à un délitement. C'est ça la crise civilisationnelle. Et on a des éléments et des indices qui montrent bien que d'une certaine manière, on ne se reconnaît plus dans les pouvoirs quels qu'ils soient. Alors voilà, c'est en ce sens que je parle de pandémie, c'est-à-dire des moments dans le fond où on manie la peur pour en créer une hallucination collective.
C'est bien clair. Et comme je vous lis régulièrement et je lis vos ouvrages, j'ai bien compris qu'une période entre deux époques, période crépusculaire que vous citez, avec comme conclusion cette ère des soulèvements. Mais est-ce qu'on peut assister à des soulèvements forts, populaires et forts, dès lors qu'on a contre soi la puissance du pouvoir médiatique qui est, je vous cite même, le perroquet de l'oligarchie. Donc dire que ces soulèvements ne sont jamais, on l'a bien vu pour les Gilets jaunes, soutenus par l'oligarchie.
Non, là, il y a une oligarchie, moi je dis médiatico-politique. Il y a une espèce de, disons-le tout net, une espèce d'endogamie. Ça couche ensemble, réellement ou pas, ou symboliquement, peu importe en la matière. Mais de fait, là, il y a une caste. J'emploie d'ailleurs à bien des égards ce mot. Alors, oui, bien sûr que il y a ce pouvoir-là médiatico-politique qui est fort, c'est-à-dire à la fois le politique, les journalistes et ces fameux experts, si vous voulez. Mais on entend leur logorée avec arrogance, suffisance, jactance, si je puis dire. Si je le dis en des termes très simples que j'entends dans mon petit village, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Cause toujours, tu m'intéresses. Donc, je ne suis pas effrayé, moi, par ce pouvoir de l'élite médiatico-politique. Il est réel, il existe. Mais du jour au lendemain, il peut cesser. Alors, là, c'est une hypothèse que je fais. Peut-être que je me trompe totalement, et ce n'est pas impossible que je me trompe. Je ne veux pas jouer au prophète. Mais on a quand même toute une série d'indices dont la mainstream ne parle pas. C'est-à-dire tous ces petits rassemblements juvéniles, festifs, le fait que, comme on appelle ça, le confinement ou le truc du soir, la couvre-feu, ne fonctionne pas forcément et pas réellement. Vous voyez, en fait, je veux dire, moi, je vois autour de moi, dans mes divers lieux, que ce soit à Paris, soit dans le Sud, les apéros et les dîners ont toujours fonctionné, vous voyez, Alors, c'est des petits indices, ça s'accumule, ça. Et je dis soulèvement, peut-être que le mot est un peu exagéré, mais en tout cas, quelque chose qui, à un moment donné, fait que ce désaccord fondamental entre l'élite et le peuple va trouver des formes et des manifestations, je ne sais pas lesquelles.
– Vous utilisez un terme, vous dites la cessio plébis, c'est-à-dire la sécession du peuple. Cette sécession, elle peut se faire. Est-ce qu'elle peut se faire quand on est enchaîné? Les chaînes, ça s'appelle aujourd'hui la crainte du chômage, l'appauvrissement,
oui,
les traites en cours à payer, les enfants à élever.
Oui,
tout ça a de quoi tuer dans l'œuf votre soulèvement populaire.
Oui, peut-être, peut-être pas.
De manière réaliste.
Oui, mais écoutez, quand j'ai cité la session plébis, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école quand j'étais jeune, c'est-à-dire le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, se retire sur l'Aventin. Quelques siècles plus tard, quand Machiavel fait cette belle distinction, moi qui me fais toujours rêver quand je suis à Florence, Palazzo Vecchio, entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Vous voyez, il y a régulièrement des désaccords de cet ordre. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais je ne suis pas sûr qu'une simple, une simple préoccupation de type économique telle que vous venez de le dire, réel, hein, moi je ne veux pas le nier cela, à un moment donné empêche le qualitatif de la vie. Hein, c'est-à-dire que la stratégie de la mort qui est actuellement utilisée n'empêchera pas la mort mais empêche de vivre. Et tout d'un coup il y a une espèce de vouloir vivre, si je le dis à la manière Schopenhauer, hein, qui peut s'exprimer par cette espèce de grouillement intérieur. Je ne pourrais pas aller plus avant, hein, c'est-à-dire je ne suis pas capable de donner, dire avec précision quelle forme prendra
cette soulèvement. – D'ailleurs vous prenez les formes comme on dit, et des gants, parce que vous dites… Toujours dans cet ouvrage, hein, vous dites que cette sécession plébis, cette sécession du peuple populaire ne s'inscrit pas dans un mouvement révolutionnaire de prise de pouvoir. Vous dites, vous ajoutez, je crois que cela se situe à côté.
Oui. Écoutez, il y a un sociologue qu'on ne connaît pas en France, qui était un sociologue germano-italien, qui s'appelait Roberto Michels. On le lui a reproché d'avoir pu, et c'était pas forcément un vrai reproche, d'avoir été à un moment donné un peu comme Sorel, d'avoir inspiré Mussolini. Mais Michels, déjà dans les années 30, hein, parlait de la saturation de la forme partie. De manière un peu allemande et sociologique, la forme partie, hein, c'est-à-dire comment cette forme partie étant devenue une oligarchie, n'était plus en phase, ne représentait plus le peuple. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu, c'est-à-dire que la forme partie, si vous voulez, est totalement saturée. Le processus d'abstention est un processus énorme. Ce que l'on n'ose pas dire, ce que les journalistes ne disent pas, c'est les non-inscrits sur les listes électorales, hein, des gens en position de voter, mais qui ne s'inscrivent pas sur les qui sont représentés, semble-t-il, entre 15 et 20%, ce qui n'est pas négligeable, vous voyez, si on additionne ça à l'abstention. Alors du coup, on n'est plus dans un processus d'abstraction. Quand cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, parlait de l'idéal démocratique, elle dit « j'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre ». Vous êtes convaincu, vous me donnez votre voix, représentation politique. Hein, représentation philosophique, représentation politique. Actuellement, cette caste n'a plus de vraie représentation philosophique, que j'entends, d'idées cohérentes. Et du coup, il y a le processus d'abstention. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense qu'il y a une appétence actuellement pour le qualitatif, pour la vie. Et que cela peut s'exprimer d'une forme qui sera peut-être, qui sera certainement violente à bien des égards.
Et la tendance de la société actuelle, c'est d'expérimenter de multiples utopies minuscules, interstitielles, des expériences de vie.
Oui, moi j'ai dépassé cette idée de la grande utopie que l'on entendrait, hein, qui était dans cette vieille tradition hegeliano-marxiste, hein, qu'on a bien connue et qui contamine encore les élites au pouvoir. Par contre, c'est intéressant, je vais dire un petit mot à la Lévi-Strauss, enfin, un moment de bricolage. Hein, on bricole. Et les utopies, ce que j'appelle depuis un moment les utopies interstitielles, c'est-à-dire ces petits bricolages. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que... Prenons un exemple très simple. Pour moi, Internet va favoriser cela, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas de mon âge, enfin je veux dire, je ne suis pas à l'aise moi là-dessus, mais il n'en reste pas moins que c'est indéniable. Hein. Il y a ma définition de la postmodernité, je vais la dire, elle est un peu alambiquée, mais synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets, archaïque non pas dans ce qui est dépassé, mais en grec, arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental.
L'essentiel.
Voilà. Et donc, les tribus et Internet. Or, qu'est-ce qui se passe sur Internet actuellement? Les mots qui sont employés, archaïque, générosité, solidarité, partage, d'autres mots, co-location, co-voisinage, co-working, le co, c'est le cum, avec. Vous voyez, donc, de fait, vous voyez, je ne parle pas en droit, moi, je dis, de fait, il y a ces petits bricolages qui, par sédimentation, ben, risquent d'amener, je le pense, à un changement civilisationnel. Vous voyez, et c'est intéressant de voir ces mots que nous considérions dans notre progressisme bené comme étant des mots dépassés, reviennent et reprennent une force indéniable. Vous voyez, voilà, c'est ça que je dis. Je ne sais pas exactement ce que cela va donner, mais on ne peut pas négliger cette lente sédimentation de ces petits bricolages, si vous voulez, existentiels.
Pas de vision apocalyptique, je l'ai bien compris, de la crise en cours, mais néanmoins, vous développez, pour conclure, la notion de totalitarisme mou, Nous sommes dans une forme de totalitarisme mou, de dictature molle, oui, mais qui à tout instant peut se transformer en dictature dure.
J'ai eu tort de dire dictature douce. C'était un mot que j'avais employé dans ma thèse.
J'ai dit molle, mais c'est doux. Oui,
c'était doux, en fait, peu importe.
C'est pas loin.
C'était une expression que j'avais écrite dans les années 70 quand je faisais ma thèse d'État, parce qu'on était confronté au totalitarisme russe ou le totalitarisme nazi qui était dur. Et je disais que, dans le fond, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer dans les soi-disant démocraties. Hein, c'est-à-dire que je prends soin de toi, tu te soumets. Hein, protection, soumission. En quelque sorte. Voilà, c'était ma critique du mythe du progrès et de l'idéologie du service public. Voilà. Et je disais totalitarisme doux pour montrer ce mécanisme-là. Peut-être qu'il aurait fallu dire, je continue à l'employer, mais totalitarisme dur, je reconnais qu'en fait, il n'est pas du tout doux. Hein, voilà. Mais oui, il est dur, il est là. Voilà, peut-être que, encore une fois, je vous dis depuis tout à l'heure, peut-être que je me trompe, mais une de mes hypothèses de base dans ma jeunesse, c'était de dire, comment dire, c'est la ruse, la duplicité, je suis double et duple. Hein, je fais comme si je suis soumis, et puis dès qu'il y a un prétexte, dès qu'il y a une occasion, il y a un processus de révolte. Voilà mon hypothèse, voyez, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de soumission. Et que ce totalitarisme doux, dur, fin, peu importe en la matière, est là, réel. C'est quand même intéressant de voir comment, de plus en plus, il y a des écarts par rapport à ce totalitarisme. Vous voyez qu'il y a toute une série de multiplications, que ce soit sur le port de la muselière, que ce soit sur les gestes barrières, etc. On voit que ça prend l'eau de toutes parts. Voilà, on verra bien hein, ce qu'il en est. Mais enfin, à mon sens, je suis attentif à cette lente sédimentation. Alors, c'est pas apocalyptique, sinon que j'aime le mot apocalypse, comme étant, en son sens étymologique, une révélation. Voilà. Et donc, il y a peut-être quelque chose d'apocalyptique actuellement, mais dans le fond, c'est la révélation d'un monde en gestation, d'un monde qui est déjà là, que j'appelle postmodernité, et qui verra revenir ses valeurs de la tradition.
Apocalypse, non. L'ère des soulèvements, Michel Maffezoli. Ce livre du sociologue Michel Maffezoli, c'est un livre qu'il faut lire. Vous le retrouvez sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci de nous avoir apporté cette vision de la période crépusculaire que nous vivons. Merci à vous.
Merci bien.